Bonjour à toutes et à tous, Christophe Jubien pour vous accueillir à bord de cette émission Écho de ma commune et de mon canton. Nous allons dans un premier temps évoquer le chantier Paul Gare en compagnie de l'adjoint au maire de Chartres, Daniel Guéret. Puis il sera question des futures actions menées au sein de la maison départementale de l'autonomie. Nous y serons accueillis par son directeur Sébastien Martin. Nous sommes ensemble pour une demi-heure. J'espère qu'elle vous sera agréable et instructive. La société publique locale Chartres Aménagement acquit les terrains de la SNCF sur le site de l'épargne. C'est le dernier épisode en date du feuilleton Paul Gare. C'était une grosse production qui va modifier en profondeur la physionomie de la ville. Daniel Guéret, c'est un peu votre bébé, ce Paul Gare. Alors avant de faire le point sur le chantier, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que c'est que le chantier Paul Gare et en quoi il va changer notre vie, nous Chartrains?
Alors d'abord, le Paul Gare, c'est un projet qui a été voté en 2006, donc nous sommes en 2017. C'est long, c'est bien trop long, mais c'est le temps en France que prend un tel chantier dans le monde ferroviaire. Le Paul Gare, donc sur Chartres, va accueillir dans quelques temps une plateforme multimodale qui va être une plateforme sur laquelle vont être réorganisés tous les moyens de transport, c'est-à-dire les bus, les vélos, les taxis, avec au-dessous un parking souterrain qui accueillera 1400 à peu près voitures. Et puis c'est aussi tout un quartier qui va sortir de terre avec une dimension culturelle et sportive, notamment avec le complexe culturel et sportif. Tout ça naturellement c'est ce qui est devant nous, c'est-à-dire c'est ce qui va sortir de terre dans les 2-3 années qui viennent. Mais pour arriver à tout ça, il faut naturellement libérer les terrains qui aujourd'hui étaient occupés par des activités ferroviaires, parce que je rappelle quand même qu'on doit faire tout ça avec le passage obligé des trains qui ne peuvent pas s'arrêter. Et donc nous allons terminer le film au mois de novembre prochain avec un chapitre qui va enfin se refermer de 6 années sur les acquisitions foncières. Et la semaine dernière, nous avons effectivement, au travers la société Chartres Aménagement, son PDG Franck Maslus a conclu l'acquisition de 2 grosses parcelles. Il en reste une troisième qui sera signée au mois de novembre et on en aura terminé. À partir de là, pourront intervenir les dépollutions, les démolitions et les reconstructions.
Finalement, la plus grosse partie du travail, pour ce qui vous concerne, ça a été la négociation, parce que ça a duré assez longtemps et ça a souvent été délicat.
Oui, je dirais que pour moi, nous sommes en train d'achever le plus dur. Quand il s'agira de construire, il y aura sans doute d'autres difficultés, mais nous avons d'abord commencer à reconstruire, notamment sur le ce qu'on appelle le plateau Galardon qui est en pleine reconstruction, le bâtiment voyageur qui est en pleine rénovation qui sera livré au mois d'avril prochain, et puis notamment sur le secteur de Poisson, on a commencé à reconstituer, certaines constructions sont d'ailleurs finalisées. La négociation foncière par elle-même aura duré 8 ans. 3 ans pour les terrains du Cernam et 5 ans et demi maintenant pour le reste. C'est très compliqué, c'est trop compliqué. C'est d'ailleurs en substance le message qu'on a délivré, que Jean-Pierre Gorge a délivré à Benoît Quignon, le directeur national de l'immobilier. La SNCF a compris ça parce que depuis le début de notre projet, il y a 10 ans, elle s'est organisée au niveau de l'immobilier pour qu'il n'y ait qu'un seul interlocuteur. Au début de nos négociations, nous avions 9 interlocuteurs dans l'immobilier, selon les terrains appartenaient aux divisions internes de la SNCF. Alors c'est là une des complexités du projet, c'est que nous devons faire avec un monde ferroviaire qui est en totale transformation, en constante évolution, selon les gouvernements qui se succèdent d'ailleurs. Et donc, changement d'interlocuteur, il faut maintenir le film, il faut arriver à faire en sorte, d'abord il a fallu gagner auprès de Guillaume Pépi et de Jacques Rapoport à l'époque, la décision que Chartres reste parmi les chantiers prioritaires en France. Je rappelle que depuis que Macron a été élu président, ils ont réorienté les priorités sur la maintenance, ce qui veut dire, ce qui pouvait vouloir dire pour nous qu'on allait nous enlever des heures de travaux pour le pôle gare, notamment pour toute la partie actuellement en cours sur le plateau de Galardon, réalisée par des chantiers SNCF. Alors tout ça c'est très important, mais j'ai mis en garde la semaine dernière tout de même. La signature à laquelle vous faites allusion est intervenue la semaine dernière, alors qu'elle aurait dû intervenir au mois de mars. Et pour moi, dès lors qu'on prend 3 mois, 4 mois, 5 mois de retard, ça peut paraître peu pour le grand public, mais c'est capital sur un planning qui maintenant va voir venir se poser la passerelle qui va relier le complexe culturel et sportif et Mainvilliers à Chartres et qui passera au-dessus des voies, va voir venir se poser le lancement de la DSP et de service public du parking, et puis nous allons lancer le dossier de consultation des entreprises pour la construction du complexe culturel et sportif. Mais ça c'est la partie, je dirais, construction. Nous aurons quand même, je pense, mis presque 10 ans à tout négocier sur le plan humain, sur le plan financier, sur le plan foncier.
Pour que les Chartrains se rendent bien compte, enfin, le directeur de Chartres Immobilier l'a dit au moment de la signature, c'est un projet qui n'a pas d'équivalent en France dans les villes de la taille de Chartres.
Oui, alors en France, par son ampleur et par, je dirais, sa démultiplication, le projet de Chartres est un projet unique. Ce qui d'ailleurs nous permet en ce moment de travailler à l'après-projet pour le Gard, parce que Jean-Pierre Gorge a souhaité me charger de voir avec Guillaume Pépi comment faire de Chartres demain une ville ambassadeur pour la SNCF qui recevrait toutes les délégations étrangères sur des équipements de villes moyennes, au travers ce que sera à ce moment-là la réalisation terminée du pôle Gard. C'est très intéressant parce que ça veut dire aussi qu'économiquement Chartres sera sur le passage du Mans, qui est une ligne, qui est une gare LGV qui est très très visitée par les délégations qui viennent en France. Donc c'est unique, c'est compliqué. Et il faut effectivement une vraie volonté politique, mais ça suffit pas. Il faut véritablement y mettre beaucoup d'ardeur au quotidien.
Parlons du centre culturel et sportif. Donc, vous venez d'acquérir les 2,3 hectares pour un peu plus d'1,4 million sur le site de l'Épargne. C'est un complexe culturel d'une valeur de 43 millions. C'est donc vraiment un paquebot. Évidemment, j'imagine qu'il va avoir une importance et une incidence sur la vie culturelle et sportive de la cité.
Bien sûr, d'abord parce que le choix qui a été fait de l'implanter ici était un choix avant-gardiste qui aujourd'hui est repris dans toutes les chartes d'urbanisme, puisque situé à proximité d'un nœud intermodal. Mais à l'époque où nous l'avons lancé, ça avait d'ailleurs fait polémique. C'est un équipement attendu, nécessaire au cœur de notre agglomération. Karine Derange porte ce projet, qui est un équipement d'agglomération et qui naturellement a pour but de répondre, bien sûr, aux besoins sportifs et aux différentes performances de nos associations sportives, mais aussi a besoin de répondre à une exigence en matière de spectacle, avec des jauges de spectacle pouvant accueillir, je dirais, un certain nombre de grandes vedettes qui aujourd'hui ne peuvent pas venir sur Chartres. Et alors le mettre ici en cœur de ville et en cœur d'agglo, c'est tout simplement parce que on s'appuie sur l'expérience et le retour de l'expérience que nous avons avec le cinéma, et on considère que en mettant cet équipement ici, une grosse majorité de gens pourront y venir à pied ou avec des moyens autres que la voiture.
On peut imaginer que ça va dynamiser aussi peut-être une zone de restaurant, de café autour du lieu.
Alors, ça c'est le deuxième volet, effectivement. Le pôle Gard, c'est tout ce que je viens de dire, mais c'est aussi surtout l'émergence d'un nouveau quartier avec une population qui aujourd'hui n'existe pas dans le secteur, et donc avec des besoins qui vont naturellement être consécutifs à cette création de quartier et avec une nouvelle vie sociale dans un nouveau quartier de Chartres.
Daniel Guéret, merci. Juste une dernière question qui n'a rien à voir, mais j'aime toujours avoir votre avis sur la situation politique en France. On ne s'est pas reparlé vraiment depuis l'élection d'Emmanuel Macron, alors ces premiers mois, qu'est-ce que vous en pensez ?
Emmanuel Macron, qui pour moi est un président qui a été élu par défaut, faute de mieux, a chaussé les bottes de la Ve République. De ce point de vue-là, je suis assez satisfait. Après, comme beaucoup, je suis dans l'attente de voir si on assiste à des postures ou si on assiste véritablement, sur le fond, à une véritable révolution sur les structures. Après, la situation politique, j'en pense à peu près la même chose qu'il y a quelques mois quand nous en avions parlé, à savoir que l'évolution de la famille qui a été la mienne, c'est-à-dire les Républicains, me désole un peu plus chaque jour, c'est-à-dire qu'on a, on a inscrit dans le marbre ces écuries, ces querelles de chapelle avec tous ces pseudo-leaders qui sont seuls à penser qu'ils peuvent incarner un rôle de leader. La droite manque aujourd'hui d'un projet, manque d'un chef, et tant que nous n'aurons pas résolu cette équation, je n'entends pas rejouer un rôle outre mesure dans ce phénomène. Alors après, je ne sais pas de quoi sera fait le futur. Macron, je pense, a une véritable doctrine. Sa majorité est beaucoup plus inquiétante, mais le tri se fera. C'est-à-dire que la majorité que nous avons aujourd'hui ne sera pas la majorité peut-être dans 2-3 ans. Donc nous avons assisté en direct sous nos yeux à une véritable recomposition politique. Voilà, nous allons voir comment les choses vont se passer. Je note que Macron commence peut-être à avoir un peu le défaut de se croire trop sûr de lui-même, ce qui parfois lui fait dire un certain nombre de choses, mais maintenant il y a un tel climat de décomposition politique dans le pays que je ne suis pas certain que nous ayons une rentrée sociale comme certains l'annoncent, très chaud, très mouvementé, parce que il y a aussi un désir profond de changer les choses. Les gens sont un peu sur leur faim parce qu'on pense qu'il y a, je crois, une grosse différence entre ce que Macron peut porter comme projet et puis la manière dont celles et ceux qui l'entourent, où il y a beaucoup de gens d'inexpérience. Et voilà. Moi, ce qui m'inquiète surtout, c'est que je pense qu'avec l'élection de Macron, la haute fonction publique et la technostructure a repris le pouvoir sur le politique, ce qui pour moi est toujours un danger. Et quand je vois le nombre de gens qui entourent Macron issus de la haute fonction publique, lui-même en est, c'était un peu le reproche que j'avais fait à Bruno Le Maire d'ailleurs, c'est pas fait pour me rassurer, c'est-à-dire que je pense que tout ça manque un peu de femmes et d'hommes qui font de la politique. Alors voilà, je pense que tout ça va se mettre en place, je suis vigilant, intéressé, mais nous vivons une séquence assez particulière.
La maison départementale de l'autonomie, évidemment en partenariat avec le conseil départemental d'Eure-et-Loir, programme une série de manifestations. Alors, il y en a deux. Il y en a une autour de l'autisme et une autre en direction des seniors. On va d'abord rappeler avec son directeur, son papa, ce qu'est la maison départementale de l'autonomie. J'ai nommé donc Sébastien Martin.
Alors, la maison départementale de l'autonomie d'Eure-et-Loir a été créée le 1er octobre 2016, donc il y a presque un an. C'était la 15e de France, mais la seule à être portée par un GIP, donc une structure autonome du conseil départemental, ceci afin de favoriser la participation aux décisions des usagers. Elle regroupe l'ensemble des anciens services personnes âgées du conseil départemental et les anciens services de la MDPH. Voilà.
C'est très collégial, hein. Je sais qu'il y a des associations qui sont présentes, c'est très important, elles sont très satisfaites d'ailleurs de cette direction collégiale.
Il y a trois collèges dans le conseil d'administration que préside Gérard Sourisseau de la MDA, un collège d'élus du conseil départemental, un collège des partenaires institutionnels de l'État, notamment l'ARS, l'éducation nationale pour ne citer que, et puis le collège des représentants des usagers, personnes handicapées et également personnes âgées.
Je me tourne vers Françoise Hamelin, donc, qui est vice-présidente du conseil départemental, en charge de l'action sociale, c'est ça, médicale, sociale.
En charge principalement de la MDA, puisque je préside les CDA plénières, là où on prend les décisions concernant les dossiers difficiles, on dira, dont les élus doivent donner leur avis. Et par l'intermédiaire de ce GIP, nous nous accordons, comme disait Sébastien Martin, à prendre une décision commune avec les associations, les établissements et les partenaires tels que l'ARS, l'État, etc. Sinon, en ce qui concerne les actions qui sont faites au niveau de la MDA, c'est tout simplement en faveur des personnes âgées, principalement les personnes qui aident les personnes âgées qui deviennent handicapés par l'âge, le vieillissement, et on veut soutenir les aidants afin qu'elles ne tombent pas malades avant les handicapés, les personnes âgées eux-mêmes. Donc pour cela, nous mettons en place des pièces de théâtre, des actions en faveur de la santé, des activités sportives, etc., de façon à rompre l'isolement et puis amener ces personnes seniors de plus de 60 ans vers ces actions et permettent à ces personnes de garder une autonomie au niveau santé, au niveau activité physique.
Donc en fait, la MDA développe depuis déjà au temps du conseil départemental, et puis ça a été confié à la maison départementale de l'autonomie, un certain nombre d'actions en faveur des seniors. Madame Hamelin, vous parlez des actions des aidants, vous savez qu'on a un grand plan départemental d'aide aux aidants, mais aussi des actions, pour la première fois, des actions santé qu'on va développer, puisque la MDA a aussi reçu délégation pour piloter la conférence des financeurs de Eure-et-Loir. Alors, cette conférence des financeurs, elle regroupe 10 partenaires institutionnels et on s'est tous mis d'accord pour piloter une politique commune sur la prévention des seniors en Eure-et-Loir. Donc c'est un programme qu'on a fait sur 5 ans. Et dans ce cadre-là, on a pu dégager un poste en termes de financement, on a pu dégager et créer un poste de coordinatrice territoriale de santé qui va nous créer et piloter et animer des actions de prévention sur la santé. Car c'est extrêmement important de pouvoir développer la santé dans ce domaine.
Alors, quelles sont les prochaines actions ?
Nous avons, c'est important quand même de rappeler que 15 millions aujourd'hui de Français ont plus de 60 ans, hein, et que c'est important face à ce vieillissement d'en faire un enjeu et d'accompagner et en prévention la perte d'autonomie à venir. Et donc nous avons mis en place un certain nombre d'actions santé. L'idée pour nous, c'est de permettre aux seniors de prendre la main sur leur santé et de l'améliorer, de favoriser le lien social, de diminuer les facteurs de risque, de sensibiliser sur le mieux vivre grâce à l'alimentation et l'activité physique, d'améliorer l'image aussi qu'ont les seniors sur la société, de valoriser les initiatives du tissu associatif et local, et puis d'informer sur des problèmes de santé ou les maladies qui impactent le plus les seniors. Alors c'est les AVC, c'est le diabète, c'est le Parkinson, c'est Alzheimer. Et donc on a développé trois types d'actions de santé qu'on va commencer à déployer le 15 septembre. Donc d'abord des randonnées ateliers bien vieillir qui vont s'appeler les santé pas à pas. Alors ce sont des randonnées de 3 à 5 km. Et durant le parcours, on a des panneaux et ça permet d'avoir un temps de pause et d'échanger sur des problématiques de la santé, toujours autour, bien sûr, de valoriser les activités physiques, l'alimentation, l'hygiène, etc. Ces deux actions santé de parcours, c'est à Fontenay-sur-Eure le 28 septembre à partir de 9h, donc on attend tout le monde à la mairie, devant la mairie. C'est ouvert à tout le monde, le parcours il est simple, tout le monde peut le faire. Et puis à Saint-Denis-d'Autoux le 12 octobre à 14h. On va aussi développer des forums diabète, sur le diabète, comment prévenir et agir. Là, il s'agit d'une conférence sur les risques et conséquences du diabète, mais aussi comment mieux vivre avec. Et là, cette conférence sera suivie d'un forum avec des partenaires de la MDA pour aller plus loin dans l'information. Alors, il y aura une pédicure, une diététicienne, il y aura l'association Espace Diabète 28 qui proposera des dépistages du diabète. Et puis, enfin, aussi un stand qui sera dédié à la promotion d'activité physique. Et puis, à Bonneval, le 13 novembre à 14h30, salle Ave Maria. Et puis enfin, on a une conférence AVC, donc pour mieux s'informer et mieux prévenir face aux risques. Donc c'est vraiment prévenir les risques et réduire leur incidence au quotidien. Notre coordinatrice de santé fera prendre conscience au public des comportements à risque et leur proposera d'améliorer leur habitude de vie, les changer et les gestes à effectuer pour secourir une personne qui est victime devant nous. Souvent, on ne sait pas comment faire d'un AVC. On va sensibiliser et expliquer les premiers gestes de secours. Deux actions sur la conférence AVC, à Senonche le 27 novembre à 14h30, salle des mariages à l'hôtel de ville, et à Orgères-en-Beauce le 12 décembre à 14h30 à la salle polyvalente. Chaque action ont été faites avec nos partenaires, qu'on remercie bien sûr les mairies, les acteurs locaux, et puis on expliquera ce qu'il y a comme possibilité sur la prise en charge de la perte d'autonomie, donc l'APA, l'allocation personnalisée d'autonomie, qui est bien sûr instruite et évaluée par la MDA.
C'était Sébastien Martin, le directeur de la Maison départementale de l'autonomie. Pour être tout à fait complet, sachez que la MDA, la Maison départementale de l'autonomie, travaille également sur l'autisme. Elle a notamment organisé en partenariat avec Autisme 28, l'Ordre de Malte, une pièce de théâtre sur la thématique de l'autisme. C'était le jeudi 14 septembre dernier au cinéma Les Enfants du Paradis. Longue vie à Boubou le Grimaud. Il s'agit d'une action théâtrale de soutien aux aidants et aux professionnels concernés par les troubles du spectre autistique. J'en profite pour vous dire que nous recevrons très prochainement Madame Van der Merch, qui est la présidente de l'association Autisme 28. Voilà, cette émission s'achève. Je vous souhaite de passer une excellente fin de journée à l'écoute de nos programmes qui se poursuivent pour votre plus grand plaisir. En tout cas, on l'espère. À bientôt.
I started writing country songs in 1962. Just a dream that I had on my mind. Now my girl and I got married in 1963. We tried so hard to keep our dreams alive. So I bought an old house trailer out on the countryside. You can't write country songs in town, they say. That's what they told me. Well, we packed up and moved out there. And as the time went by, we found that we liked songs were meant to be. I heard that old Hank Williams, well, he drove one just like mine. So I thought that something might rub off on me. You can take what you want. Just a little place that we call home, sweet home. There was one old house trailer through rusty Cadillacs and 5,000 country music songs. Now I always sent my songs up to Nashville town in case the boys couldn't use a guy like me. But the mailman brought him right back down, and I think it made him say, you're bound to get you one, just wait and see. Well, I recall the year that Ray Price came through town. His tour bus parked about a mile from here. But I just sat there in the back seat of that old coupe de ville. Those shoes were just too big to fill that year. Bobby Bear, take you anywhere. If I'm still here, it wasn't for lack of trying. My wife would tell me, honey, now I'm feeling something there. Don't care if Bobby never reads a line. You can take what you want after I'm gone. It's only just a little place that we call home, sweet home. It was one old house trailer, two rusty Cadillacs, and 5,000 country music songs. Then late one summer evening, she called me to her side, saying, sing me something in your real old style. The one I'd like to hear, Bobby Bear passed by. I just closed my eyes and rest a while. She liked that big old tree and a honeysuckle vine, a mockingbird that sang so tenderly. Well, I just packed up all those song words and my old guitar. I locked them up and threw away the key. So, Mister, take what you want after I'm gone. It's only just a little place that we call home, sweet home. It was one old house trailer, two rusty Cadillacs, and 5,000 country music songs, and 5,000 country music.